Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir à la une, l'horreur à Calais. Au moins 27 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants et le bilan reste visiblement provisoire. Ces exilés tentaient de rejoindre l'Angleterre. Le Premier ministre Jean Castex déplore une tragédie, pointe du doigt les passeurs. Les recherches sur place continuent. Nous rejoindrons le vice-président de la région dans un instant. Les autres titres de l'actualité matin. Maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le gouvernement face à la 5e vague, passe sanitaire durcie, délai pour la 3e dose revue à la baisse. Plusieurs mesures sont sur la table, elles seront présentées demain. Dans ce journal aussi, la condamnation de Karim Benzema dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. Et le PSG qui peut décrocher dès ce soir contre Manchester City sa place pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les courses dans le Quintet Plus au Mans, il fallait jouer le 5, le 8, le 16, le 3 et le 4.
Dans un quart d'heure, notre invité justement de 18h15 sera l'avocat de Karim Benzema, maître Antoine Vey. 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes de curiosité garantie avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
13 interpellations, une cinquantaine d'armes saisies ces dernières heures. Ce soir, on vous plonge dans le milieu très secret de l'ultra-droite. Au menu également, le Premier ministre belge qui va finir par arrêter de fréquenter les Français et de l'huile d'olive made in Normandie.
19h15, on va débattre, refaire le monde autour d'Éric Brunet et puis des points réguliers également sur le temps avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quelle est la tendance?
Gris demain sur tout le pays, pluvieux sur la moitié sud et sec au nord.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir,
le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Le Premier ministre évoque ce soir une tragédie. Au moins 27 migrants sont morts aujourd'hui au large de Calais dans le naufrage de leur embarcation.
Bonsoir Aurélia Valarié.
Bonsoir.
C'est un pêcheur qui a donné l'alerte cet après-midi.
Oui, c'est vers 14h que ce pêcheur signale une quinzaine de corps flottants au large de Calais. La Marine nationale se rend alors immédiatement sur place. Il s'agit d'une embarcation qui a fait naufrage avec à son bord une cinquantaine de migrants qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Parmi eux, certains avaient des gilets de sauvetage, d'autres non. Et depuis cet après-midi, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. On est actuellement, vous le disiez, à 27 morts. Plusieurs personnes inconscientes aussi. Mais selon la préfecture maritime, il y aurait des survivants, dont 2 qui ont été déposés à Calais. Des recherches sont toujours en cours. 2 hélicoptères et 3 navires mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, est attendu sur place.
Les précisions d'Aurélia Valarié pour RTL.
Bonsoir Franck Dersin.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le vice-président de la région des Hauts-de-France. Vous êtes sur place avec notamment le préfet maritime. Vous nous confirmez que ce bilan de 27 morts est peut-être simplement provisoire ?
Oh, il est absolument provisoire. C'est un bateau qui est parti de Lonne-Plage près de Dunkerque, qui peut contenir 50 personnes. Et on sait que les passeurs bourrent les bateaux le plus possible pour gagner le plus d'argent possible sur la misère des gens. Donc il y avait probablement plus de 50 personnes. 27 corps retrouvés pour l'instant, mais on va largement dépasser malheureusement ce nombre de morts. Quoi. Oui.
Donc les recherches se poursuivent actuellement, elles vont se poursuivre cette nuit ?
Mais oui, mais madame, vous savez, il fait 2 degrés. La mer du Nord, à cette époque-ci, fait 6 degrés, 7 degrés. On tient 15 minutes dans l'eau, madame. Donc, on ne peut pas retrouver des gens vivants. Ils ont retrouvé 2 personnes en hypothermie. Mais c'est impossible de retrouver des gens vivants dans la mer du Nord et la Manche à cette époque-ci de l'année.
On entend votre émotion, Franck Dersin. On sait que les tentatives de traversée se sont multipliées ces dernières semaines. Plus de 30 000 migrants ont quitté nos côtes depuis le début de l'année. Près de 8 000 ont été sauvés en mer. C'était inévitable un tel drame ?
C'est inévitable, oui, bien sûr, et ça va probablement se reproduire. Les températures de l'eau sont telles que on ne devrait plus, normalement, les autres années, ils passaient dans les camions, ils passaient par le port. Mais là, il y en a tellement qui ont réussi à passer par bateau qu'ils imaginent qu'ils vont pouvoir continuer. Vous savez, quand vous êtes à Calais et qu'il fait beau, vous voyez les falaises de Douvres. Ce sont des gens qui ont fait 4000, 5000, 6000 kilomètres, et là, ils sont là à Calais, et ils voient les falaises de Douvres, ils voient l'Angleterre, ils voient l'endroit où ils veulent aller. aller. Donc ils sont persuadés qu'ils ont qu'à nager ou prendre un petit bateau, ils vont réussir. Mais c'est pas la Méditerranée, c'est, vous voulez, les courants sont très puissants. D'ailleurs, la plupart des corps, on les retrouvera même pas ce soir. En quelques minutes, votre corps, il peut être emporté sur 300, 400 mètres. Voilà.
Ces dernières semaines, Franck Dhersin, le dossier a refait la une. Hein. Il y avait eu cette grève de militants, un médiateur nommé, des camps régulièrement démantelés. Pourtant, on a l'impression que rien ne bouge, que ces tragédies, elles sont vouées à se répéter.
Et oui, vous savez, les camps sont démantelés. Ils ont démantelé les camps à Grande-Synthe, à Calais, il y a 10 jours. Les gens ont été transportés à plusieurs centaines de kilomètres de là. Je suis vice-président chargé des transports. Quelques jours après, ils étaient par centaines revenus dans les prétrains. Donc ils reviendront. Rien n'arrêtera ces gens. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire tomber, mais c'est aux Anglais que je parle, c'est pas aux Français, les chefs des passeurs sont en Angleterre. C'est eux qui gagnent des centaines de millions d'euros et qui réinvestissent l'argent dans la City en Angleterre. Et le gouvernement anglais ne fait rien pour toucher ces gens. Vous savez, c'est facile, vous faites un contrôle fiscal sur ces gens, vous leur dites pourquoi, comment vous avez acheté cette pizzeria, comment vous avez acheté cette boîte de nuit, comment vous avez acheté ces immeubles, et vous arrivez les trouver. Aujourd'hui en France, la police française fait ce qu'elle peut, le gouvernement fait ce qu'il peut. On arrête des passeurs, mais on n'arrête pas les chefs de ces passeurs qui sont en Angleterre.
C'est important ce que vous dites, Franck Dhersin. À l'instant, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, convoque une réunion de crise de l'autre côté de la Manche. Est-ce que ce drame, il doit pousser dans les heures qui viennent tout le monde, les gouvernements français, anglais, à se mettre autour de la table? On sait que certains élus de la région estiment que les Britanniques sont responsables de l'appel d'air.
Mais bien sûr qu'ils sont responsables. Dès qu'un migrant arrive, il a 50 euros par semaine, il a un logement, il a tout de suite. Et c'est très bien. Je veux dire, les Anglais considèrent les gens d'une manière très humaine. Mais ça fait un appel d'air, si vous voulez. Parce que dès qu'ils sont arrivés, ils appellent leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, leurs frères, leurs sœurs. Ils leur disent, c'est génial, on a tout ce qu'il faut. Mais en même temps, on traite humainement des gens. Si vous voulez, c'est la misère dans ces pays qui provoque ça, ce sont les guerres qui provoquent ça. C'est pas la faute de la France, c'est pas la faute de l'Europe.
Merci. Une tragédie humanitaire, donc 27 morts, on le rappelle, au moins 27 morts après le naufrage de cette embarcation, donc dans la Manche. Merci Franck Dhersin, vice-président de la région Hauts-de-France, d'avoir été en direct avec nous ce soir.
RTL Soir.
18h07, vous écoutez RTL, on en vient maintenant au reste de l'actualité avec comme un air de déjà-vu, comme l'an passé, face à une nouvelle vague du Covid, le gouvernement espère pouvoir sauver les fêtes de fin d'année.
Si nous voulons atteindre notre objectif de sauver les fêtes de fin d'année, il faut une mobilisation collective.
Voilà les mots tout à l'heure du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui laissera au ministre de la Santé l'annonce des nouvelles mesures. Ce sera demain à la mi-journée, mais des pistes sont déjà esquissées. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Ça passera notamment par un renforcement du pass sanitaire.
Oui, plus que des pistes, on peut vous parler de manière affirmative ce soir. Selon nos informations, la durée de validité des tests antigéniques ou PCR va passer à seulement 24 heures. Un seul jour contre 2 ou 3 actuellement. Ça, c'est un message direct aux 6 millions de non-vaccinés. En clair, bon, maintenant, vous y allez, vous aurez enfin votre passe et fini la galère pour la moindre petite sortie au restaurant.
Le passe sanitaire qui n'autorisera plus d'enlever son masque dans les établissements recevant du public.
Là aussi, serrage de vis, la même règle pour tout le monde. Cinéma, salle de spectacle ou autre, si vous entrez avec un passe, ça ne vous dispensera plus de garder le masque sur le nez. Idem pour le masque en extérieur, dans les lieux de forte affluence. On pense dans les semaines à venir au marché de Noël, notamment.
En ce qui concerne la vaccination, William, l'idée est d'accélérer la campagne de rappel. Hein.
C'est ça. 6 mois minimum aujourd'hui entre la deuxième et la troisième dose. Ce délai, là aussi, d'après nos informations, va se réduire et passer à 5 mois seulement. L'autre question, c'était l'âge. Aujourd'hui, seuls les plus de 50 ans sont déjà concernés par cette troisième dose. Tous les adultes vont maintenant être éligibles pour cette troisième dose à partir du 6 décembre. Les gens iront faire ce rappel spontanément, veut croire un conseiller de l'exécutif. Car, dit-il, ils ont compris que c'était ça ou le retour des confinements.
Les explications de William Galibert du service politique de RTL.
Le feuilleton n'est pas terminé. 6 ans après son déclenchement, l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena donnera lieu à un nouveau procès. Karim Benzema, en effet, a fait appel après avoir été condamné ce matin à Alice Moreno pour complicité de tentative de chantage.
Oui, Karim Benzema s'est personnellement impliqué dans cette affaire, tranche le tribunal, au prix de subterfuges et de mensonges. mensonge pour convaincre Mathieu Valbuena de céder au chantage. Il a même fait preuve d'une certaine excitation, voire d'une jubilation, selon les juges, et certainement pas avec l'intention bienveillante de protéger son coéquipier comme il le prétend. En conséquence, il est condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, la juste peine pour l'avocat de Mathieu Valbuena, Didier Doma.
Mon client attendait surtout une reconnaissance de son statut de victime. Il l'a eu, il est satisfait et il n'attend pas d'excuses particulières de quiconque. Il a subi des préjudices sportifs difficilement réparables. Le fait qu'il soit plus en équipe de France alors qu'il était toujours présent, eh bien la conséquence directe, et quoi qu'en dise Didier Deschamps et la Fédération, eh bien la conséquence directe de cette affaire.
Pour motiver sa décision, le tribunal souligne aussi la gravité de cette affaire qui a entaché la réputation du foot français tout entier. Les avocats de Karim Benzema dénoncent quant à eux un jugement incohérent, se disent sidérés par un tel dénouement et ont donc annoncé leur intention de faire appel dès le rendu de la décision.
Et justement, l'un des avocats de Karim Benzema, Maître Antoine Vest, sera notre invité dans quelques minutes.
L'attaquant Karim Benzema, dont l'avenir en bleu n'est pas compromis, il n'y aura pas de suite sportive, assure sur RTL le patron de la Fédération française de foot, Noël Legrain. Son sort à lui est entre les mains en ce moment du conseil d'administration d'Orange après la condamnation ce matin de Stéphane Richard, le patron à 1 an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Stéphane Richard était à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'économie. Il s'est aussitôt pourvu en cassation.
Une pause et dans un instant, face à des accusations de viol, d'agression sexuelle qu'il dément, Nicolas Hulot se retire de la vie publique. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h12, la suite de votre journal sur RTL. Il s'était déjà retiré de la vie politique en 2018. Cette fois, Nicolas Hulot se retire définitivement de la vie publique, notamment de la présidence d'honneur de sa fondation.
Oui, l'ancien ministre défenseur de l'environnement a pris les devants face à de nouvelles accusations de viol et d'agression sexuelle qu'il dément, hein, Thomas Proutot.
Oui, des accusations portées par 5 femmes et recueillies par les équipes d'envoyés spécial dans une enquête programmée demain soir sur France 2. C'est l'ancien ministre et figure du combat écologique, vous le disiez, qui les a révélés lui-même ce matin dans une longue interview en défense sur BFM TV. Nicolas Hulot a expliqué savoir très peu de choses sur le contenu des témoignages, mais selon lui, les faits remontent à plus de 30 ans et il rejette le fond et la méthode.
On est dans des accusations d'agression sexuelle et de viol. Je vous le dis, ces affirmations sont purement mensongères. Ni de près ni de loin, je n'ai commis ces actes. Donc je suis condamné à ce saut infâme de l'ignominie sans avoir eu les moyens en quoi que ce soit de me juger.
Du côté de France 2, on reste très discret sur les éléments de l'enquête qui sera exceptionnellement diffusée en direct demain soir. On ne sait pas non plus si les témoignages des accusatrices de Nicolas Hulot ont ou seront accompagnés de plaintes et si une enquête judiciaire est ouverte. Il y a 3 ans, l'ancien présentateur de TF1 avait traversé une tempête similaire avec la révélation d'une ancienne enquête pour viol à son encontre. Enquête classée en 2008 pour prescription.
En précision, signé Thomas Proutot pour RTL. En Allemagne, un accord de coalition annoncé aujourd'hui entre les sociodémocrates, les Verts et les libéraux. Les Verts qui récupèrent les affaires étrangères et un super ministère du climat et de l'économie. Parmi les mesures phares, déjà annoncées, le retour de la rigueur et la légalisation du cannabis. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h. C'est l'affiche du soir en Ligue des Champions. Le PSG opposé à Manchester City à partir de 21h. Un match que vous pourrez suivre en direct sur RTL. Une victoire permettrait aux Parisiens de se qualifier pour les quarts de finale.
C'est noté, merci Marion. À tout à l'heure. Le temps maintenant avec vous, Peggy, ça donne quoi pour demain?
Encore bien pluvieux sur toute la moitié sud, demain toute la journée. Je rappelle que l'Aude est toujours en vigilance orange, pluie, inondation jusqu'à 22h, donc prudence. Les pluies seront moins fortes demain, mais parfois orageuses entre la côte et la Corse. Et sur toute la moitié sud, le temps sera gris, donc pluvieux toute la journée avec une limite pluie-neige dès 1100 mètres. Sur la moitié nord, le ciel sera bien chargé le matin, mais sec, sauf sur les bords de Manche où il y aura quelques averses toute la journée, sous un ciel plus lumineux l'après-midi. Et on devrait trouver même quelques trouées sur la moitié nord au fil des heures. Les températures, encore dégelées demain matin, on se couvre et les maximales seront fraîches au nord. 3 à Strasbourg, jusqu'à 15 à Nice. Il fera 8 à Paris ainsi qu'à Biarritz et 12 à Nîmes.
Merci Peggy. Dans un instant, notre invité de 18h15 sera l'avocat de Karim Benzema, Maître Antoine Vell. Le footballeur est condamné à 1 an de prison avec sursis dans l'affaire de la sextape. Il fait appel. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h18, bonne fin de journée avec RTL, RTL Soir à vos côtés. On va maintenant s'intéresser à la contre-attaque de Karim Benzema, l'attaquant des Bleus. Fait appel dans l'affaire de la sextape. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende aujourd'hui. Reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Bonsoir Antoine Vey.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des avocats de Karim Benzema. Avant de commenter la décision, un mot de la réaction de votre client. Il joue ce soir au fin fond de l'Europe, en Moldavie, avec le Real Madrid. J'imagine que vous avez échangé avec lui. Comment il a vécu ce jugement ?
Il l'accepte pas parce qu'il considère que c'est pas normal d'être condamné pour quelque chose qu'on n'a pas fait. En l'occurrence, il a jamais relayé une tentative de chantage auprès de son camarade Valbuena. Il a offert une proposition pour essayer de lui rendre service. Après, on peut y mettre les termes qu'on veut, l'intention qu'on veut. Donc, l'infraction pour laquelle il est poursuivi n'est pas matérialisée ni en fait, ni en droit. Donc, c'est pour ça qu'il nous a donné mandat de faire appel de cette décision le choque et qu'il ne comprend pas.
Ce n'est pas l'avis, évidemment, du président du tribunal pour qui Benzema a participé, je cite, à cette tentative de chantage avec une certaine excitation, pour ne pas dire une certaine jubilation. J'imagine que quand vous avez entendu cette phrase, ça a dû vous interpeller.
Oui, parce que le tribunal, en fait, a beaucoup d'imagination, à la fois sur l'intention de M. Benzema, et aussi sur la matérialité d'une discussion entre lui et Valbuena, sur laquelle nous n'avons aucune preuve, aucun indice matériel réel. On retisse l'histoire entre Valbuena et Benzema au regard d'une discussion que Benzema aurait eue ensuite avec un ami. Et si vous voulez, on prend dans cette conversation les mots qu'on veut prendre. Bon, il souhaitait le condamné, ils ont raconté cette histoire et maintenant ils l'habillent aussi d'une coloration presque morale, ce qui est un petit peu étonnant et choquant et surtout non nécessaire. Voilà.
Ça veut dire que pour vous le dossier était vide ?
Oui, on n'a aucune preuve matérielle contemporaine de la conversation que M. Benzema a eue avec M. Valbuena. Et M. Valbuena, juste après cette conversation, s'il avait été victime d'une infraction pénale, pouvait tout à fait immédiatement appeler les policiers avec lesquels il était en contact et dire voilà précisément ce qui s'est passé. On a attendu un mois et demi pour avoir le ressenti du dit Valbuena. Et aujourd'hui, on est en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre. Moi, je dis que le doute doit profiter à M. Benzema, qui a toujours dit qu'il n'a jamais cherché à faire pression sur son camarade. Il n'en avait aucun intérêt. Il ne cherche pas à avoir de l'argent. Il ne cherche pas à le pénaliser plus que ça. Il a juste essayé, en disant qu'il s'était lui-même d'ailleurs trouvé dans une situation analogue, de lui dire « Je connais quelqu'un qui peut régler ton problème. Tu veux l'appeler, tu l'appelles. Tu ne veux pas l'appeler, tu ne l'appelles pas. » Et à la fin de la conversation, M. Valbuena lui aurait dit « Merci ». C'est un peu étonnant pour quelqu'un qui est victime d'une infraction pénale de dire merci à celui qui est poursuivi. Je le dis pour que les gens le comprennent. Pour une complicité de tentative de chantage, donc c'est une construction intellectuelle assez compliquée, et généralement quand c'est aussi compliqué, c'est qu'en fait il n'y a pas de preuve et il n'y a pas de raison d'avoir condamné cet homme, qu'il soit Benzema ou qu'il soit un justiciable ordinaire, c'est la même chose, il aurait dû être relaxé.
Le président du tribunal a insisté sur le préjudice subi par Mathieu Valbuena, qui n'a plus jamais retrouvé les Bleus après cette affaire. Est-ce que Karim Benzema n'a pas la sensation d'avoir joué un rôle dans cette éviction forcée, durable de l'équipe de France ?
Déjà, moi, je n'aime pas quand on mélange le judiciaire et le sportif. D'ailleurs, Benzema lui-même en a souffert, puisque aujourd'hui, il est encore présumé innocent. Et il a déjà eu, c'est une affaire très ancienne, d'une certaine façon, subir tout ce que cette affaire a généré autour d'eux. Maintenant, je ne suis pas capable, moi, d'apprécier si M. Valbuena a été évincé, à quel titre il était victime. Je ne crois pas qu'on évince les gens d'une équipe sportive quand ils sont victimes. Donc qu'il en ait souffert, parce que médiatiquement c'est difficile d'être dans ce cadre, on peut le comprendre. Moi je ne suis pas contre M. Valbuena, je dis simplement que dans ce dossier, il n'y a jamais eu les preuves nécessaires pour condamner M. Benzema, que ça lui a porté un grave préjudice, que la condamnation qui est aujourd'hui prononcée lui cause aussi préjudice sur son image, et donc qu'il souhaite en faire appel, et ça me paraît justifié.
On parlait de l'équipe de France, tiens, écoutez Noël Le Graët, le président de la Fédération, il a réagi sur RTL à ce jugement. Pour lui, pas question, là, aujourd'hui, d'écarter Benzema des Bleus, comme à l'époque. Écoutez-le.
Il a été suffisamment martyrisé depuis 5 ans pour qu'on y ajoute. On n'a pas d'avoir de texte qui corresponde à une augmentation de sa peine ni à une éventuelle interdiction. Donc, en ce qui me concerne, il n'y aura pas de suite sportive. Mais regardez ce qu'il fait ces derniers temps. Il se conduit bien. Au Real, il est magnifique. Je pense qu'il doit être dans les... pas ballon d'or, mais dans les premiers, de quoi on se plaint.
Ces mots du président de la Fédération, est-ce qu'ils ont rassuré Karim Benzema ?
Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, on est sur le terrain sportif. Ce que je sais, c'est que Karim Benzema, étant présumé innocent en faisant appel d'une décision, il n'y a aucune raison de l'exclure. Et plus encore, il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas parce qu'une personne même serait condamnée à quelque chose en matière pénale qu'il ne peut plus jouer au football, qu'il ne peut plus exercer sa profession, qu'on ne peut plus le regarder. Je tiens à dire qu'au contraire, il a été très exemplaire, ce qu'a dit le président pendant toutes ces années. Il est présumé innocent. Et par contre, ce qui était véritablement choquant et qui, je crois, s'est produit aujourd'hui, c'est qu'on voulait qu'il soit jugé différemment de tout autre justiciable parce que, justement, il est connu. C'est ce qu'avait demandé le parquet. Finalement, en première instance, il a eu raison. On peut espérer qu'en appel, les choses soient différentes.
Vous parliez de préjudice. Le Ballon d'Or sera décerné lundi. On l'a entendu avec Noël Le Graët, Karim Benzema fait partie des favoris. On sait que les votes sont clos depuis maintenant plusieurs jours. Est-ce que votre client craint tout de même, quelque part, que cette affaire ait pu lui porter préjudice et puis influencer les votants ?
Manifestement, de toute façon, c'est un contexte général. Je ne sais pas si le Ballon d'Or est influencé par ça, mais ça met sur lui une image dont il a souffert. Et je crois qu'il a tout fait pour essayer de la corriger, tant sportivement qu'éthiquement qu'humainement, et qu'aujourd'hui, on aurait pu espérer passer à autre chose. Oui. Malheureusement, il y aura un appel, et heureusement, il pourra s'expliquer.
Il pourra s'expliquer en appel, ça veut dire qu'il viendra s'expliquer en appel, parce qu'on se demande si son absence n'a pas joué en sa défaveur jusqu'ici.
Non, mais c'est M. Benzema qui a demandé 4 fois pendant l'information judiciaire à être confronté à M. Valbuena, ce qu'on lui a toujours refusé. Il n'est pas venu pour une stratégie ou une autre, il n'est pas venu parce qu'il avait des matchs de football, et si le tribunal avait voulu renvoyer le dossier, il l'aurait fait. Aujourd'hui, si, évidemment, on audience ce dossier un jour où il n'y a pas un match d'importance ou quelque chose auquel il ne pourrait se déroger, il aura à cœur de venir l'expliquer, il aura à cœur de s'expliquer avec M. Valbuena, et on peut espérer que ces explications changent le cours des choses.
Merci Antoine Vey, avocat de Karim Benzema, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Dans un instant, RTL Soir va se poursuivre. On va revenir bien entendu sur le titre à la une ce soir, cette effroyable tragédie à Calais. Si vous nous rejoignez à l'instant, 27 morts au large de la ville du Pas-de-Calais après le naufrage d'une embarcation de migrants. Et puis ensuite, laissez-vous tenter dernière, on va accueillir Mélissa Torio qui sera notre invitée parce qu'elle propose ce soir à la télé un documentaire vraiment saisissant, très humain sur les violences faites aux femmes. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier.
RTL Soir à vos côtés, il est 18h28.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Si vous nous rejoignez à l'instant, si vous vous branchez sur RTL, on va refaire maintenant un point sur l'actualité. L'actualité malheureusement dominée par cette tragédie humanitaire ce soir au large de la France, au large de Calais, au moins 27 migrants sont morts aujourd'hui dans le naufrage de leur embarcation.
Oui, tout a commencé cet après-midi, Aurélia Valarié.
Oui, c'est un pêcheur qui a fait cette découverte macabre vers 14h alors qu'il navigue au large de Calais. Il découvre une quinzaine de corps qui flottent sur l'eau. Il s'agit d'une embarcation qui a fait naufrage avec à son bord au moins une cinquantaine de migrants qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Et depuis cet après-midi, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. On est actuellement à 27 morts, plusieurs personnes inconscientes aussi. Mais selon la préfecture maritime, améliorer des survivants. Les recherches sont toujours en cours. 2 hélicoptères et 3 navires mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place. Il devrait notamment se rendre à l'hôpital de Calais.
Au moins une cinquantaine de personnes à bord donc de cette embarcation. Le bilan risque donc encore de s'alourdir. C'est ce que nous disait tout à l'heure sur RTL le vice-président de la région Hauts-de-France, Franck Dersin.
Il fait 2 degrés. La mer du Nord, à cette époque-ci, fait 6 degrés, 7 degrés. On tient 15 minutes dans l'eau, madame. Donc, on ne peut pas retrouver des gens vivants. Ils ont retrouvé 2 personnes en hypothermie, mais c'est impossible de retrouver des gens vivants dans la mer du Nord et la Manche à cette époque-ci de l'année. Ils sont persuadés qu'ils ont qu'à nager ou prendre un petit bateau, ils vont réussir. Mais c'est pas la Méditerranée. Les courants sont très puissants. D'ailleurs, la plupart des corps, on les retrouvera même pas ce soir.
L'émotion tout à l'heure du vice-président de la région Hauts-de-France, Franck Dersin, invité d'RTL Soir. Jean Castex, le Premier ministre, parle d'une tragédie et cible les passeurs qui exploitent la détresse et la misère des migrants. De l'autre côté de la Manche, le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce la convocation d'une réunion de crise. Dans l'actualité aussi de ce mercredi, face à la 5e vague, le gouvernement va serrer la vis. Nouvelle annonces sanitaires demain à la mi-journée. Ce sera Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui va s'en charger avec des tests désormais dans le cadre du passes sanitaires qui ne seront plus valides que 24 heures. Les masques seront aussi imposés dedans et dehors sur forte influence concernant la troisième dose. Elle sera autorisée à partir de 5 mois et non plus de 6 mois comme recommandé aujourd'hui. Troisième dose pour tous à partir du 6 décembre. Information du service politique de RTL. Et puis du foot, une place pour les huitièmes de finale en jeu. Le PSG ce soir face à Manchester City en Ligue des Champions. Match à suivre en direct sur RTL.
Merci beaucoup Marion, bonne soirée. Un mot du temps également pour demain, Peggy.
Ce sera bien gris demain sur l'ensemble du pays. Elle est encore bien pluvieux sur toute la moitié sud toute la journée, voire orageux entre la Côte d'Azur et la Corse. Avec pas mal de vent, on aura de la neige également en montagne dès 1100 mètres au nord. Un ciel couvert mais sec, sauf sur les bords de Manche où il y aura encore quelques averses. Sous un ciel plus lumineux en journée, quelques trous également sur le reste de la moitié nord l'après-midi. Côté température, encore dégelé le matin, on se couvre et l'après-midi, les maximales de 3 à 9 degrés au nord, 6 à 10 au sud, jusqu'à 15 près de la Méditerranée. Et je rappelle que l'Aude est toujours en vigilance orange, pluie, inondation jusqu'à 22h ce soir.
Merci Peggy.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
RTL soir, 18h32 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et ce soir, dans Laissez-vous tenter dernière, on vous invite à regarder la télévision, plus précisément la chaîne parlementaire, à 20h30, à la veille de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous allez découvrir un documentaire saisissant, émouvant, Réparer les vivantes, film de Florie Martin. Vous en êtes la productrice déléguée, Mélissa Torio, bonsoir.
Bonsoir.
Ce film, il nous plonge dans le quotidien d'une association formidable, Women Safe, dans les Yvelines, association qui répare donc les femmes, les enfants victimes de violences avec un concept unique en France. Dans un même lieu, on trouve accès aux soins et accès à la justice. Et on se rend compte à quel point c'est important. Association d'intérêt général, dit la marraine Florence Foresti. Vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr, je partage son opinion. Il y a plusieurs centres, heureusement, maintenant qui existent et qui proposent des prises en charge pluridisciplinaires. Ce qui avait d'intéressant dans la démarche de rendre visible Women Safe, c'est un, ils sont pionniers, donc ils ont un recul, une expérience. Et deux, tout est gratuit. Je crois que c'est important de le rappeler aussi, mais une victime peut pousser la porte de cette association, être prise en charge entièrement gratuitement. Ne lui seront jamais demandés ses papiers, sa carte vitale ou sa carte bleue.
On suit le parcours, la reconstruction de victimes d'inceste, de femmes battues par leurs compagnons, par leurs enfants même parfois. La première phrase qu'on leur dit en arrivant, on l'entend dans une séquence, c'est « Ici, rassurez-vous, on vous croit ». C'est très fort.
Oui, je crois que c'est ce qu'elles ont besoin d'entendre, ce que la société aussi a besoin. Alors c'est une phrase aujourd'hui qui résonne, qu'on entend du président à l'association, où enfin l'oreille se tend pour dire non seulement nous vous écoutons, mais nous vous croyons. On souhaitait aller plus loin en montrant vraiment et en entrant dans ce cocon. On parle justement de cette libération de la parole et puis celle de l'écoute, on l'espère. Mais comment concrètement sont prises en charge ces femmes qui toutes, vous l'avez sans doute vu, ont plusieurs traumatismes, plusieurs épreuves qui vont s'ajouter les unes aux autres.
Oui, réparer les vivantes, le terme est fort, parce qu'on se rend compte à quel point ces violences, même enfouies, les empêchent d'avancer.
C'est tout à fait ça qui va les empêcher toute leur vie, pas forcément tous les jours, mais qui vont leur mettre des bâtons dans les roues dans toutes leurs relations sociales, amicales, professionnelles, privées ou amoureuses, n'en parlons pas. Donc c'est toutes ces déflagrations qui vont rythmer votre vie et qui vont impacter leurs enfants. Il ne faut pas oublier qu'on est chez Women Safe and Children où aujourd'hui il y a 700 enfants qui ont déjà été pris en charge et qui font aussi partie de ce processus d'accueil, de soins.
Il y a des scènes bouleversantes, notamment celle d'un cercle de paroles. On entend à chaque fois la colère, la peur de déranger, la peur des hommes aussi. Je voudrais vous faire écouter, vous le connaissez bien entendu, cet extrait très fort.
Et je me souviens qu'il y avait ses bras qui me touchaient au niveau du dos et ça m'était très très mal. Je sais que j'ai dit non, que je voulais pas.
Quand tu le racontes là maintenant, qu'est-ce qui se passe en toi?
Ça me fait un peu comme des chocs électriques qui reviennent.
Ok.
C'est des sortes de frissons, de tremblements.
Où est-ce que t'en es maintenant?
J'ai envie de m'effondrer.
Ok, mais tu vas pas t'effondrer. On est toutes les deux.
Voilà, on l'entend, il y a des témoignages qui sont très durs, mais ils sont toujours très dignes, il n'y a rien de sensationnaliste.
Non, on a été très vigilantes toutes les deux avec Florie Martin, mais d'essayer d'être les plus justes et discrètes aussi possible dans le dispositif qui était celui de Florie pendant le tournage, et en même temps d'être juste sur ce que c'est de recevoir cette parole. Et puis vous avez vu la bienveillance, l'empathie, l'écoute active et le soin qu'on a en face. Moi, Marie, la psychologue dont on vient d'entendre les mots, ça me touche profondément d'entendre ça. Et cette jeune victime qui prend la parole était à la projection que nous avons faite au ministère de la Santé il y a 2 jours. Et c'était bouleversant de voir positivement des trajectoires qui progressent aussi. Et cette jeune femme va mieux. Elle n'en est pas sortie, bien sûr, ça va être long. Mais d'entendre des mots de « je me sens mieux, je peux avancer », il y avait son petit ami avec elle. Enfin, tout ça, pour les équipes comme pour nous, ce sont concrètement des récompenses ou des encouragements, en tout cas, à continuer de mettre des moyens sur ce type de prise en charge.
Voilà, et vous pourrez découvrir, vous les auditeurs, en regardant ce soir ce documentaire, des héroïnes formidables, 4 femmes, une infirmière, une juriste, une psy, une gynécologue. Les équipes sont absolument remarquables. Regardez ce soir sur la chaîne parlementaire ce documentaire « Réparer les vivantes ». Merci Mélissa Torio, vous la productrice déléguée, d'avoir été avec nous dans « Laissez-vous tenter » dernière ce soir sur RTL pour en discuter.
Merci à vous.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, on marque une courte pause dans RTL Soir et dans un instant, on va défaire le monde avec le trio magique, Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Dans un instant, gros plan sur l'ultra-droite avec des dizaines d'armes découvertes hier chez un caporal de l'armée. Les affaires se multiplient. On s'est interrogé, combien de suprémacistes blancs, de néo-nazis en France, est-ce qu'ils sont organisés, prêts à passer à l'action? On va s'interroger juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.